Je ne sais pas si Valérie est là ce matin. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est peut-être pas là. Ok, ce sera une autre fois. Voilà, en tout cas, j'aimerais ce matin partager la parole de Dieu. On va lire ensemble dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset... Nous allons lire à partir du verset 8. Nous voulons en souhaiter aussi la bienvenue à ceux qui nous visitent. Voilà, personnes nouvelles aussi qui sont là au milieu de nous. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Voilà, le titre de mon message, c'est « Réveillé ou endormi ?» Et je voudrais voir ce matin un des signes qui montre que nous sommes réveillés. On va parler de trois signes, on en verra un ce matin et on en parlera de deux autres les prochaines fois. Paul parlera de ceux qui marchent dans les ténèbres. Il comparera cela à des personnes qui dorment, décrit comme une mort spirituelle, même si... Dormir, c'est une bonne chose, hein, physiquement. L'image que la Bible emploie concernant le domaine spirituel est quelque chose de négatif. Paul est en prison quand il écrit Éphésiens. Il est là et malgré ses chaînes, il n'est pas endormi, mais bien réveillé spirituellement. Il s'adresse aux croyants d'Éphèse en les exhortant à marcher d'une certaine manière. Et cette manière, c'est la manière d'un chrétien réveillé et non endormi. Nous voulons être une église réveillée. Nous voulons être des chrétiens réveillés. Et c'est vrai que spirituellement, il ne faut pas aimer le sommeil. Alors comme je sais qu'il y a des enfants, je vais faire un petit jeu. Vous êtes là les enfants? Alors arrêtez de dessiner, regardez-moi. Voilà, je vais vous montrer des photos. Et vous allez essayer de deviner, je vais vous montrer des animaux. Il y a des animaux qui aiment le sommeil. Et puis, il y a des animaux qui, au contraire, dorment très peu, n'aiment pas le sommeil. Hein, vous allez essayer de deviner. Ça va, vous êtes là, vous êtes prêts? Ah, les grands, on peut aider aussi. Alors, on va envoyer la première photo. Voilà, c'est quoi ça? Les fourmis. Alors, à votre avis, est-ce que ça dort beaucoup? Qui pense que ça dort beaucoup, les fourmis? Lève la main. À personne. Qui pense que ça dort peu? Ah, vous avez raison. Une fourmi, elle fait plusieurs centaines de micro-siestes d'une minute. Elle dort à peu près 4 à 5 heures par jour avec ses micro-siestes. Voilà, la photo suivante. Ah, c'est facile, hein, c'est pas quelque chose de difficile. Hein. Le chat. Qui pense que le chat aime le sommeil? Ouais, vous avez raison. Ils disent 12 à 16 heures. Le mien, il dort moins que ça, mais voilà, par jour. L'image suivante. Un éléphant, qui pense que ça dort beaucoup? Qui pense que ça dort peu? Eh bien, un éléphant, il dort à peu près de 2 à 4 heures par jour. Il peut rester plus de 2 jours sans dormir. Dis à ton voisin, sois un éléphant spirituellement. Je rigole. La photo suivante. La girafe, qui pense qu'une girafe dort beaucoup? Personne, vous êtes très fort alors, hein? Qui pense qu'elle dort peu? Ouais, une girafe dort 30 minutes à 2 heures par jour. En tout cas, c'est ce que dit Internet. Voilà, moi je suis pas spécialisé des animaux, mais voilà, notre animal, le martinet noir. Est-ce que vous pensez qu'il dort beaucoup? Hein? Ouais, vous pensez qu'il dort beaucoup? Qui pense qu'il dort pas beaucoup? Ouais, en effet, en fait, il fait, lui, des micro-siestes de quelques secondes et il peut rester 200 jours sans se poser. Voilà. Et apparemment, bah, il dort moins de 1 heure par jour. Ah ouais, c'est intéressant, hein, la nature. Bon, le suivant, vous allez tous savoir, le paresseux. Voilà, ouais. À votre avis, qui pense qu'il dort beaucoup? Voilà, qui pense qu'il dort pas beaucoup? Et oui, à cause de son nom, 15 à 20 heures par jour, le paresseux dort beaucoup. Allez, le suivant, la chauve-souris. Voilà, si vous n'avez pas d'idée d'animal de compagnie. Voilà. Alors, qui pense que ça dort beaucoup? Qui pense que ça dort pas beaucoup? Ouais, ça dort 20 heures par jour, apparemment. Le requin, maintenant. Alors, qui pense qu'un requin, ça dort beaucoup? Ouais, qui pense que ça dort pas beaucoup? Alors, le requin... Alors, certains doivent nager en permanence pour respirer, pas tous, mais pour que l'eau circule dans les branchies. Ils peuvent se reposer ils peuvent reposer partiellement le cerveau et d'autres restent immobiles au fond. Voilà. Alors en fait, il y en a certains qui se doivent être toujours en mouvement, mais ils reposent une partie de leur anatomie. Alors, c'est quand même quelque chose de particulier. Et puis le dauphin. Alors là, j'ai appris quelque chose. Le dauphin. Alors le dauphin, il dort jamais complètement. Il laisse dormir un hémisphère de son cerveau à la fois. Un œil opposé au cerveau est endormi et fermé, et l'autre est ouvert. Voilà, des trucs particuliers, hein. Alors, croyez pas qu'il vous fait un clin d'œil, non, c'est que certainement, il dort. Et puis le dernier, le charmant koala. Vous savez que ça, je ne vais pas faire, je pense que vous le savez tous, ça dort beaucoup. Je pense que lui, il a le record, 18 à 22 heures par jour. Voilà, là, tu peux dire à ton voisin, soit une girafe, un éléphant ou une fourmi spirituellement. Ne lui dis pas d'être un requin, mais tu peux lui dire cela. Hein. Voilà, bon, c'était un petit test, mais... En tout cas, nous avons besoin spirituellement d'être bien réveillés, de ne pas être endormis. Et je voudrais, c'est vrai, à l'aube des vacances, alors pour certains, même si je sais que plusieurs travaillent, dire à l'Église, c'est important que nous ne dormions pas spirituellement. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, dimanche dernier, le diable n'est pas en vacances. Et nous voulons véritablement être réveillés aussi pour notre propre santé spirituelle, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous, parce que même pendant les vacances, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui sautent la vie, des hommes et des femmes qui attendent une solution, qui crient. Et nous avons besoin, en tant qu'Église, de ne pas avoir juste des actes religieux, mais d'être là avec la vie spirituelle. Ce qui est notre richesse, c'est la présence manifeste de Dieu au milieu de nous. Et c'est que Dieu soit en nous, c'est vrai, mais qu'il se manifeste au travers de nous. Parce que s'il est en nous, mais que nous vivons seulement par la chair, le monde ne pourra pas voir, et nous-mêmes, nous serons des chrétiens qui sont toujours entre deux eaux, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. J'avais noté ceci, si quelqu'un qui est vivant physiquement prie, eh bien c'est pas parce qu'il prie qu'il est vivant spirituellement. La prière peut être quelque chose de vivant comme elle peut être quelque chose de mort. Et nos sens spirituels peuvent être engourdis. Nous pouvons prier, mais où est notre foi, où est notre cœur? C'est très important que notre foi soit placée en lui, pas seulement de manière générale, mais nous avons besoin de placer notre foi en lui dans les combats que nous vivons, dans les difficultés que nous rencontrons. Moi, je sais que dans ma relation avec le Seigneur depuis quelques années, eh bien, je prie aussi. Ah, bien sûr, il y a toutes sortes de prières, on loue le Seigneur, on prie. Mais en fait, je prie aussi en fonction de ce qui m'arrive. Quand des choses m'arrivent, alors le réflexe, comme tout le monde, c'est de faire par soi-même. Mais des fois, à un moment donné, on se dit, tiens, je pourrais prier. Je pourrais placer ma foi dans le Seigneur. Et je voudrais t'inviter à... Parce que des fois, on peut prier longtemps, longtemps sans placer notre foi. Mais je voudrais t'inviter à vraiment placer ta foi dans le Seigneur. Quand on place notre foi, si tu veux savoir si tu places ta foi, eh bien, la Bible dit que le retour, c'est que tu as la paix dans ton cœur. C'est qu'il y a une paix qui est là. Ça, c'est important. Trois signes qui montrent qu'on est réveillé spirituellement ou qu'on est endormi. Ce matin, Nous allons en voir un seul. Je fais des progrès, ça ne sera pas aussi long que si j'en parlais de trois. Mais c'est vrai que quand on prend même le sommeil, physiquement, quand vous dormez, vous avez une perte de conscience de la réalité. Hein, par exemple, là, vous avez dormi cette nuit, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans votre chambre, sauf si vraiment il y a vraiment du vacarme, on éclaire, ou quelqu'un arrive et vous réveille. Mais quand vous êtes endormi, nous perdons conscience de certaines choses. Et vous savez, quand on est endormi spirituellement, notre conscience, elle va être comme anesthésiée. Et il y a des choses que nous n'allons plus percevoir. Et ce matin, j'aimerais parler d'une de ces choses, un des signes de quelqu'un qui est réveillé. Et nous le lisons dans Éphésiens, hein, je ne le sors pas de nulle part, je le sors de la parole de Dieu. On a lu ce texte « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts ». Et nous avons lu ensemble d'examiner ce qui est agréable au Seigneur et de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Un des premiers signes d'un chrétien qui est réveillé, eh bien, c'est qu'il marche dans la sainteté. C'est qu'il vit dans la sainteté. Et ça, c'est quelque chose d'important. Cela ne veut pas dire qu'il est parfait, parce que la marche dans la sainteté, elle est toute notre vie et nous luttons avec un ennemi qui s'appelle la chair. Mais cela ne veut pas dire non plus que la sainteté ne se manifeste pas. Si nous sommes réveillés, il doit y avoir, et le Seigneur nous montre que c'est un signe, la Bible parlera du fruit de la sainteté, il va y avoir dans notre vie des choses que nous faisons qui sont agréables à Dieu et les choses qui sont désagréables à Dieu, eh bien nous ne les faisons pas. Est-ce que vous pouvez dire amen ? C'est une réalité. Plus nous sommes réveillés, plus nous avons une conscience aiguë de ce que Dieu déclare bien et mal, une entière confiance dans sa parole au point d'y soumettre notre vie. La considération de la parole de Dieu, non pas selon ce que le monde dit, ou alors je considère la parole si cela plaît aux hommes, selon l'approbation des hommes, ou encore de ce que je ressens ou pense, l'approbation de ma chair, mais réellement, eh bien, je considère la parole de Dieu, quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que ma chair dit, mais parce que c'est ce que Dieu dit. Et ça, c'est important. Dans Éphésiens 5.3, on l'a lu, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni bouffonneries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide ou idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous savez que quand Paul écrit à Éphèse, la culture d'Éphèse était profondément païenne et immorale. Il y avait la prostitution religieuse, il y avait l'idolâtrie, il y avait le culte de Diane également. Il y avait vraiment le péché qui était là. Et Paul, il parle à des chrétiens qui vivent dans ce contexte-là. Comme nous vivons dans un monde où les médias ont un grand pouvoir, où tout ce que nous pouvons entendre, écouter, évidemment, nous influence. Et nous avons besoin, nous le verrons à la fin du message, de l'influence de Dieu en nous pour marcher d'une manière digne du Seigneur, à la gloire du Seigneur et pouvoir faire une différence. Le réveillé, celui qui est réveillé, non seulement il marche dans la sainteté, mais le péché ne devrait même pas, et l'Église réveillée, on ne devrait même pas nommer le péché parmi nous. Que le Seigneur nous aide. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas notre identité. L'impudicité, là dans le texte qu'on a lu, il parle de l'impudicité, la cupidité, les paroles obscènes, grossières. Il parle de ces choses-là. Ce n'est pas notre identité. C'est pour ça quand il dit « Aucun impudique, impur ou cupide n'héritera du royaume de Dieu ». Là, on parle de la personne impudique, impure. Oui, quelqu'un qui finalement n'a pas la sainteté dans sa vie, pratique le péché, n'héritera pas du royaume de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, eh bien, ces choses-là, nous savons dans notre cœur que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous savons, il en parlera tout à l'heure, de ce que ça produit, l'impudicité, toute sexualité qui n'est pas au service de l'amour, de la personne du sexe opposé avec qui on a fait une alliance. Eh bien, c'est aux yeux de Dieu un péché. Un péché qui, même si notre monde appelle cela normal, on parlera de comment le monde peut l'appeler, la Bible nous dit qu'en tant que chrétien, enfant de Dieu, Nous voulons vivre la sexualité au service de l'amour, pas au service de moi, de la personne de sexe opposé avec qui on a fait une alliance pour la vie. Ça, c'est la parole de Dieu. Celui qui est réveillé, le Saint-Esprit dans son cœur l'amène dans cette direction-là. La cupidité, l'amour de l'argent, le désir, la convoitise qui conduit à l'égoïsme, l'injustice, parfois le mensonge, le vol ou encore l'idolâtrie. L'amour de l'argent. Quand l'argent devient un dieu, ces choses-là également, non, l'argent, nous voulons que ce soit un serviteur pour Dieu, pour le royaume de Dieu. Nous ne voulons pas que ça prenne possession de nous. Et celui qui est réveillé, eh bien, il n'a pas l'argent comme maître. Il n'est pas dirigé par l'argent, il ne fait pas des choix juste pour l'argent. Non, il fait des choix pour Dieu, et bien sûr, il y a besoin d'argent. L'argent n'est pas là pour notre égoïsme, mais on veut que l'argent puisse servir le royaume de Dieu. La Bible parle aussi dans le texte qu'on a lu d'Éphésiens des paroles obscènes et grossières, des paroles insensées. Vous voyez, là aussi, le fruit de Dieu, c'est que nos paroles soient des paroles de grâce, des paroles de vérité, des paroles d'amour, des paroles de reconnaissance, des paroles d'encouragement. Et même la vulgarité, nous ne devrions pas l'accepter en tant que chrétien. Les paroles de critique. Vous avez remarqué, dans la cantonée, il y a la chair, c'est plus facile de voir ce qui ne va pas chez quelqu'un que ce qui va. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le signe du chrétien réveillé, c'est qu'il est capable de donner des paroles qui édifient et qui construisent. Pas des paroles qui détruisent. Amen. Celui qui est réveillé prend plaisir à ce qui est agréable à Dieu. Il recherche ce qui est agréable à Dieu. Il n'a pas les mêmes valeurs que les valeurs de ce monde. Dans ce monde, nous détruisons notre corps. Mais celui qui est réveillé prend soin de son corps. Il va éviter les addictions. Celui qui est endormi, il peut être dans l'occultisme, la superstition, il peut placer sa foi dans toutes sortes de choses. Celui qui est réveillé, il place sa foi en Jésus-Christ. Celui qui est endormi, il vit dans l'indépendance. Mais celui qui est réveillé, il apprend ce que c'est que la redevabilité. Celui qui est endormi, il peut être dans l'hypocrisie. Mais celui qui est réveillé, il veut marcher dans la vérité, avec amour, mais dans la vérité. Celui qui est endormi, il aura des mauvaises paroles. Celui qui est réveillé, des paroles qui édifient. Il peut y avoir aussi la méchanceté, la rancune. Mais celui qui est réveillé, il cherche à honorer les gens, à pardonner, tout en bien sûr ajoutant la vérité parce que l'humanité est compliquée. On pourrait parler évidemment de l'impudicité, de la cupidité ou des paroles, mais on pourrait parler des conflits, de l'hypocrisie, de l'orgueil, de l'indépendance, tellement de choses. Le monde cherche le plaisir, le bonheur, mais notre quête n'est pas la même. Nous cherchons la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. Mais j'aimerais, on va en parler maintenant, j'aimerais dire que la volonté de Dieu, la sainteté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Juste 4 points rapidement avant de continuer le message sur le fait que la sainteté de Dieu, c'est ce qui est pur aux yeux de Dieu. C'est ce qui est saint. Ce qui est bon. D'abord, vous dire dans Proverbe 9:10, il est dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Quand je crains Dieu, non pas dans le sens d'avoir peur de Dieu, mais dans le sens de respecter Dieu et respecter ce qu'il dit, considérer ce qu'il dit, alors Dieu dit, tu commences à devenir sage. Tu commences à devenir sage. Les gens du monde diront, si tu marches dans la sainteté, tu es un arriéré, tu es quelqu'un qui ne vit pas dans son temps, toutes sortes de pensées. Dieu dit, c'est le commencement de la sagesse. Parce que si le Seigneur, même dans l'Ancien Testament, a mis des lois, c'était pour permettre aux personnes de vivre en paix, de vivre en évitant que les personnes puissent faire du mal sans qu'il n'y ait rien. Il y a la crainte de l'Éternel, le commencement, la sagesse, la bonne manière de faire. La Bible dit aussi dans le psaume 24, versets 3 et 5, que c'est une bénédiction de Dieu. Et c'est sûr, quand tu marches dans la sainteté, il y a des bénédictions que tu en retires. Par exemple, quand tu marches dans la sainteté et que par exemple tu décides de ne pas être méchant, tu décides d'être doux, d'être patient, tu décides de de ne pas répondre par la vengeance. Ben, t'en retires la paix dans ton cœur. Si tu te venges, ben, l'autre, il va, déjà, tu ne vas pas être tranquille, je te le dis, parce que tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il va me faire maintenant ? Il y a des bénédictions quand on met en pratique la parole de Dieu, quand on marche dans la sainteté. La Bible dit aussi, Romains 6, 22, j'aimerais bien le préciser ça, parce que vous allez comprendre pourquoi. Romains 6, 22, il dit, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Vous voyez, ce n'est pas la sainteté qui donne la vie éternelle. Ce qui donne la vie éternelle, c'est la foi véritable en Jésus. Mais la foi véritable en Jésus donne la sainteté. Quand tu crois vraiment en Jésus, il y a un travail. Déjà, il y a ce qu'on appelle la sanctification première. Quand tu nais de nouveau, tu te donnes à Jésus, il y a des choses qui changent. Mais tout ne change pas. Tu as toute la vie encore pour changer. Il y a ensuite une marche dans la sanctification. Mais si je donne ma vie à Jésus et qu'il n'y a pas de sanctification, c'est que c'est peut-être intellectuel, mais ce n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance va amener une sainteté pas forcée, mais volontaire. La Bible dit que Dieu nous convainc de péché, il convainc de ce qui est mal, de ce qui est bien, et il crée en nous le vouloir et le faire, un désir pour aller vers le bien et pour ne pas aller vers le mal. C'est pour ça que nous, en tant que pasteurs, je pense à Nicolas qui est là, quand il est venu dans l'église, il n'avait pas du tout cette apparence-là. Nous, on lui a présenté Jésus, on a parlé de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il est venu à Jésus dans la présence de Dieu, Dieu a commencé à le convaincre de péché. Et je me rappelle ce moment, c'était là-bas, il me dit, « David, je me suis repenti de mes péchés. » Je lui ai même pas parlé d'être saint. Il est juste venu dans la présence de Dieu. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu nais de nouveau, il y a un désir de sainteté. Il y a une repentance et on désire marcher selon le Seigneur. Alors bien sûr, ne vous jetez pas des pierres. C'est sûr qu'il y a la chair qui est là. Il y a un combat qui est là. Et c'est sûr que si je marche dans la présence de Dieu, ça va être plus facile. Si je marche loin de la présence de Dieu, ça va être... Merci, difficile. Mais cette conviction que le Seigneur fait en nous, il agit en nous. Et c'est quelque part, la sainteté est un signe que nous appartenons au royaume de Dieu. Alors je voudrais faire une parenthèse parce qu'il y a aussi ceux qui, au milieu de nous, ils luttent avec le péché. Ils veulent ne pas pécher, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont dans le combat. Ben, j'aimerais dire, si tu luttes, c'est qu'il y a quand même une volonté en toi de vouloir être saint. Ça veut dire que Dieu agit. Le problème, c'est quand tu ne luttes pas. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus me voir. Moi, je veux être chrétien, mais continuer de faire cela. Ce que la parole appelle péché, moi, non, je ne l'appelle pas péché. Je me souviens de quelqu'un avec qui j'étais avant. Il dit, voilà, je suis chrétien, mais je veux continuer ça. Je dis, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui lutte, et parce que ben, il y a des choses qu'il a besoin de comprendre. Il a besoin aussi de s'approcher de Dieu, de s'appuyer sur Dieu. De quelqu'un qui justifie. Et qui, lui, ne lutte pas, il justifie, il fait son truc. Mais n'oubliez jamais l'avant-dernier verset de la Bible et l'avant-avant-dernier verset de la Bible, que celui qui ajoute et celui qui enlève, ils ne seront pas au ciel avec Dieu. Et c'est mon rôle, et depuis que je suis là, je crois que j'en ai pas encore parlé, mais c'est mon rôle de dire à l'Église que oui, un chrétien réveillé, il veut la sainteté. Amen. On n'est pas parfait, on a des temps de mou, moi-même j'en ai eu, mais le Seigneur nous aide, nous secourt, nous change, nous transforme. Amen. C'est important. La sagesse, la bénédiction, la vie éternelle. Et comment ne pas dire aussi l'autre aspect positif, c'est le témoignage. Hé, les gens ont besoin de voir quelque chose de différent. Alors pas seulement dans ce qu'on ne fait pas, mais aussi dans ce qu'on fait. Les hommes autour de nous ont besoin de voir un amour désintéressé. Oh, quand je dis ça, on essaie de tendre, ok, on n'y est peut-être pas, mais en tout cas, on veut aimer, pas parce que les gens nous apportent quelque chose. Mais on veut aussi, oui, garder nos cœurs. Vous savez, j'avais un jeune, il voulait pas tricher, il voulait pas mentir dans le boulot. Alors bon, on se fichait un peu de lui, parce que c'est pas toujours très positif. Et du coup, il était connu pour être dans la vérité. Il ne voulait pas mentir, pas tricher. Du coup, le jour où le patron il voulait demander à un de ses employés d'aller déposer une grosse somme d'argent, il a demandé à qui, à votre avis ? Il a demandé à ce jeune-là. Tout le monde se moquait de lui, mais sa sainteté faisait une telle différence que le patron lui faisait confiance. Et en effet, il a pu lui faire confiance, il a fait ce qu'il devait faire. Le témoignage de la sainteté est un signe. Et quand même, vous savez, vous êtes dans un groupe, les gens parlent de choses impures et que vous... Alors, il ne faut pas le faire en disant « Non, mais vous, bande de pécheurs, vous êtes comme ça, moi, je... » Non, ce n'est pas ça. Là, vous avez un contre-témoignage. Mais simplement, moi, personnellement, je ne souhaite pas aller là-dedans. Eh bien, vous réveillez leur conscience quand vous faites ça. Vous réveillez leur... C'est ça, l'histoire des charbons ardents sur la tête. Vous réveillez leur conscience. Bien sûr, on n'est pas les juges, on n'a pas à leur dire ce qu'ils ont à faire, mais simplement, nous marchons dans la lumière. Et quand tu marches dans la lumière, c'est un témoignage. Combien de gens peuvent dire « Mais je vois que tu es différent ». Un autre point, par exemple, de marcher dans la lumière, c'est que toi aussi, vous savez, les chrétiens, comme les non-chrétiens, ils ont des épreuves, ils ont des difficultés. Mais la différence, c'est qu'on peut avoir la paix, c'est qu'on peut s'appuyer sur une parole. C'est qu'on peut avoir une grâce qui nous est donnée. Et ça, c'est aussi un témoignage. Amen. La sainteté. Et même pour vous, les enfants, c'est important d'écouter les parents. Et pour nous, les parents, c'est important. On veut aussi élever nos enfants. Même si c'est un défi, les parents disent amen. En les équipant. Et le meilleur équipement qu'on peut leur donner, c'est le salut, c'est l'amour, c'est la vérité. En les amenant dans un mouvement de pouvoir servir, pouvoir travailler, et en les aidant également. Quand ils réussissent, on se réjouit. Quand ils échouent, on leur apprend à apprendre. Et c'est important, on a besoin de la grâce de Dieu. Dans les disputes de couple, dans les foyers, dans les familles, nous avons besoin d'écouter ce que le Seigneur dit, de nous accorder sur la parole. Comment tu fais quand l'un dit vert et l'autre dit rouge ? Eh bien, tu regardes ce que la parole dit. Et si la parole dit vert, alors on s'accorde sur le vert. Si la parole dit rouge, alors on s'accorde sur le rouge. Mais pour ça, il faut de l'humilité. On a besoin d'humilité. Le Seigneur nous aide. Amen. La Bible dit dans Proverbes 4, versets 20 à 22, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. » Amen. Vous savez, ce verset, il parle de la parole dans son ensemble. Et alors, on dit tous « Amen » quand on parle des promesses de Dieu. Ah oui, hein, les promesses de Dieu, c'est la vie et c'est la santé. Mais les directives de Dieu aussi. Les directives de Dieu, c'est aussi pour la vie et la santé. Moi, je suis content que Dieu ait dit de ne pas voler, parce que je n'aime pas qu'on me vole. Moi, dans chaque maison où je suis arrivé, on m'a cambriolé, sauf ici. Mais la bonté de Dieu, c'est que la première fois, ils m'ont pris 30 euros, et l'équivalent de 30 euros, et la deuxième fois, ils ne m'ont rien pris. Bon, ça, c'est la grâce de Dieu. Mais ça ne fait pas plaisir qu'on nous vole. Moi, je suis content que Dieu dise de ne pas voler. Ce que le Seigneur déclare, c'est pour notre bien, et c'est important. Et nous avons besoin d'être attentifs aux paroles de Dieu. Et je voudrais vous donner une image ce matin. Je voudrais vous donner l'image d'un grand sportif qui est appelé à être attentif aux paroles de son entraîneur. Et vous savez, son entraîneur, eh bien, les paroles de son entraîneur ne vont pas aller toujours dans le sens de ce qu'il veut entendre. Je ne pense pas que son entraîneur va lui dire « mange tout ce que tu veux, entraîne-toi juste une fois par semaine, dors jusqu'à midi ». Il ne va pas lui dire ça. Pourquoi ? Parce qu'on a un but. Parce qu'il a un but, il a un objectif. Il va lui dire « entraîne-toi tous les jours, si c'est un sportif de très haut niveau, mange correctement ». Il va donner des indications. Est-ce que le sportif il va râler ? Ben, il va râler s'il ne voit pas l'objectif. Mais s'il connaît l'objectif, il sait où il va, il va dire « ben oui ». C'est ce qui est bon pour moi. C'est ce qui est bon pour ce que je veux accomplir. Et ensemble, nous avons un entraîneur. Alors là, dans ce texte, dans l'exemple que je donne, l'entraîneur, il ne peut pas donner la force au sportif. Mais nous, notre entraîneur, il nous donne la capacité de réussir. Il nous dit, voilà, je veux que tu sois sain, mais ce qu'il ordonne, il le donne. Il dit, je veux que tu sois sain, mais tu vas l'être par moi, en fait. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Quand un chrétien, il essaye d'être saint par lui, eh bien, il se rend compte qu'il ne peut pas, il échoue. Nous avons, et nous allons le voir dans quelques instants, nous avons besoin d'être saints, mais par lui. Et nous marchons dans la sainteté parce que nous avons un but. Nous voulons que le royaume de Dieu soit visible sur la terre. que les gens dans notre travail, dans notre famille, puissent voir le royaume. Et c'est notre combat. On est en guerre contre la chair. Et on dit, Seigneur, nous voulons véritablement, oui, développer tout ce qui est dans le royaume de Dieu, la générosité, l'hospitalité, la vérité, la bonté, la douceur, la fidélité, l'intégrité, la justice, le pardon, l'honnêteté, toutes ces choses, la reconnaissance, le secours, etc., etc., la patience, la pureté. Amen. Il n'y a pas beaucoup de amen ce matin, mais c'est la parole de Dieu quand même. Celui qui est réveillé, il est attentif aux paroles de Dieu. Vous savez, Jésus nous a montré l'exemple. Et quand le tentateur venait finalement pour l'amener à faire un peu ce qu'il voulait, hein, Jésus va répondre, il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est en train de dire, je suis sous une autorité, je suis sous l'autorité de Dieu et je marche dans ma vie sous l'autorité de Dieu, pas sous l'autorité de moi, de ce que je veux, de ce que je ressens, de ce que je pense, parce qu'à la croix, le moi, il est mort. Et aujourd'hui, le nouveau moi, eh bien, je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, je vis pour le Seigneur. Amen. Et il va répondre, il est écrit. Il est écrit. Amen. Alors, je termine le message. Comment être réveillé? Vous avez remarqué, quand vous dormez, ben vous avez besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour vous réveiller. Vous avez remarqué? Soit quelqu'un qui vient, soit le réveil, ou soit la lumière pour vous réveiller. Sauf si vous dormez très très longtemps, vous vous réveillez tout seul. Mais sinon, on a besoin de quelqu'un. Et je voudrais vous dire, pour être réveillé spirituellement, tu ne peux pas être réveillé spirituellement tout seul. Tu as besoin de Dieu lui-même. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Et j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour être réveillé. Et dans le texte qu'on a lu, alors réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Et il est dit, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le Seigneur s'est livré à la croix, il s'est donné pour nous. Et en fait, dans cet acte de la croix, il y a la solution pour pouvoir vivre la sainteté. J'aimerais qu'on lise ensemble Romains chapitre 6, versets 5 à 14, et qu'on puisse, s'il vous plaît, le lire avec attention. Romains chapitre 6, verset 5. Écoutez bien, nous parlons de ceux qui acceptent Christ. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant, et ça c'est une réalité que beaucoup de chrétiens n'ont pas captée, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le... Alors souvent, pourquoi on ne l'a pas capté? Parce qu'il y a toujours la chair qui est là, cette puissance de péché. Mais Dieu dit que quand nous avons accepté Christ, le vieil homme, l'ancien moi, le pécheur, il a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Si tu veux être libre du péché, tu dois d'abord croire que tu es mort au péché. Quand tu as accepté Christ, tu as accepté ton arrêt de mort. Dans le sens de l'être pécheur est mort. Je dois accepter par la foi. Si j'essaie de ne pas pécher sans accepter l'œuvre de la croix, je le fais par moi-même. Mais il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit qui vient finalement agir là où il y a la foi, dans l'œuvre de la croix. Or, si nous sommes morts avec Christ, verset 8, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Amen, on le répète, regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu, on le répète aussi, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point, c'est une conséquence. Si tu veux que le péché ne règne pas, si tu veux marcher dans la sainteté, tu as besoin d'accepter l'œuvre de la croix, mais dans cette dimension-là, de saisir que tu es mort au péché, vivant pour Christ. Il y a quelque chose à croire. Je dois placer ma foi que oui, tout ce que j'ai vécu avant, tout ce qui est du péché, où j'agissais contre Dieu, où je ne faisais pas ce qu'il fallait, tout celui-là, là, il est mort. Je dois accepter par la foi. Parce que c'est ce qui va permettre au Saint-Esprit Eh bien, de travailler en moi pour que celui qui vit pour Dieu se manifeste. Et n'obéissez pas à ces convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais ce texte nous montre ce que c'est qu'être sous la grâce. C'est accepter qu'à la croix, oui, Jésus est mort pour pardonner mes péchés, c'est merveilleux, mais moi je suis aussi mort au péché. Je ne suis plus... Alors bien sûr, mon corps n'a pas changé, mon âme n'a pas changé, même si elle a pu être visitée par Dieu. Mais mon esprit a été régénéré. Et aujourd'hui, c'est mon esprit qui décide. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, eh bien, ce qui est passé est passé. Voilà, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais je dois le croire. Parce que la foi dans cette réalité me concernant va amener ensuite le Saint-Esprit à manifester la sainteté dans ma vie. Ça, c'est important. Premier point. Maintenant, j'en viens au deuxième point. Donc, accepter son œuvre, mais particulièrement par rapport à cela. Deuxième point. On l'a lu ensemble tout à l'heure. Il est dit, soyez remplis de l'Esprit. Amen. Le deuxième point, il va dire « Soyez remplis de l'Esprit ». Soyez au contraire remplis de l'Esprit. De quoi il parle à ce moment-là? Eh bien, voyez, ce qui permet à chaque être humain de marcher dans la sainteté, ben, c'est le fait que le Saint-Esprit soit en nous, mais qu'il se manifeste. C'est important. La manifestation de sa présence. Quand je suis rempli de lui et que je fais confiance en sa parole, eh bien, il y a une puissance, le Saint-Esprit agit et m'aide. Il est celui qui me parle, il est celui qui dit « Non, ne fais pas ça ». Il est celui qui dit « Si, va à la réunion de prière ». Il est celui qui nous conduit. Il est celui qui est capable, oui, de mettre de l'amour pour un collègue de travail qui souffre, alors que sans lui, tu aurais été indifférent. Il est celui qui va agir en nous pour nous aider dans la sainteté. Il est celui, quand tu vas mentir, qui va te reprendre, dire « là, tu as menti, tu vas te sentir mal et tu vas pouvoir réparer ce que tu dis ». Il est celui qui éclaire notre conscience. Et la sainteté, elle vient, et ça c'est important, de sa présence en nous, mais qui se manifeste. Elle ne vient pas de nos efforts qui ne dureront pas, mais la communion avec lui nous permet, la communion spirituelle dans l'esprit, par l'esprit, eh bien permet la manifestation de sa présence et nous avons comme fruit la sainteté. Amen. J'aimerais vous montrer des exemples bibliques où à chaque fois que Dieu était là, que sa présence se manifestait, on trouve la sainteté comme un fruit. Moi, je voudrais qu'on comprenne ce matin que la sainteté est juste le fruit d'autre chose. En fait, si tu n'es pas saint, c'est parce qu'il manque la manifestation de la présence de Dieu en toi. C'est pour ça. On a besoin, c'est pour ça qu'on parle du baptême de l'Esprit, d'être rempli de l'Esprit, de la communion avec le Saint-Esprit, de la marche par l'Esprit. Regardez, il dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Par exemple, quand Dieu appelle Moïse au milieu du buisson, Dieu est là. Et la première chose qu'il lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Première chose, c'est quand il est là, ben, il y a la sainteté qui est là. Quand Jésus est là avec Pierre, tant que Jésus fait rien, il ne se passe rien. Parce que Jésus, Dieu peut être en nous, mais s'il ne se manifeste pas, il n'y aura pas forcément la sainteté. Mais quand Jésus est là avec Pierre et que là il dit « jette le filet » et qu'il jette le filet et que là il prend une grande quantité de poissons, là Pierre à un moment donné, vous savez ce qui se passe ? Ben, il y a comme une œuvre de sainteté qui se fait en lui puisqu'il dit « retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Dans la présence de Jésus qui se manifeste, où est-ce qu'il a su qu'il était pécheur ? Ça n'a aucun rapport. Jésus ne lui a pas dit « t'es pécheur ». Jésus a fait un miracle, il a béni, mais la Bible dit la bonté de Dieu, elle nous amène à la repentance. La manifestation de Dieu. Quand Jésus se manifeste, eh bien Pierre réalise qu'il est pécheur. Il réalise que celui qu'il a en face, il est saint. Quand l'Esprit de Dieu a été répandu sur l'Église, à la Pentecôte, savez ce qu'il écrit ? Il écrit « Une grande crainte s'empara de toute l'Église. » Un respect de Dieu. La sainteté de Dieu. La sainteté est le fruit de la manifestation de sa présence. Et quand Il y a des années en arrière, les années 1906-1909, quand il y a eu ce réveil à Azusa Street avec la Pentecôte, la nouvelle Pentecôte, Dieu était présent au milieu d'eux. Eh bien, oui, il y avait cette sainteté, il y avait ce désir d'être saint, il y avait ce désir de se mettre à part, ce désir de ne pas pécher contre Dieu. Amen. La Bible dit que la sanctification, elle vient de l'Esprit. Il est dit la sanctification de l'Esprit, de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. La sainteté, oui, vient de l'acceptation de l'œuvre de la croix, mais elle vient de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Elle ne vient pas de nos efforts. Et moi, si je suis un pasteur qui vous dit « Allez, hein, marche dans la sainteté, sois saint, je te demande quelque chose qui est impossible. » Mais si je te dis « Dieu veut te rencontrer », Dieu veut te remplir, et pas te remplir seulement le jour où tu as été baptisé de l'Esprit, il veut te remplir tous les jours. Il veut te remplir, il veut te parler. C'est pour ça qu'on a lu dans le texte d'Éphésiens, « Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes spirituels, dans l'Esprit, pas juste humains. Entretenez-vous, parce que c'est la présence de Dieu en nous qui amène la sainteté. » Amen. Et ça, c'est le signe d'un chrétien, d'une chrétienne réveillée. Alors, vous inquiétez pas, si on dort, Dieu veut nous réveiller. Mais si on est réveillé, eh bien, restons réveillés. Amen. Et je voudrais inviter l'Église dans ce temps de vacances, pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui ne le sont pas aussi, je voudrais nous inviter à venir dans sa présence. Et Dieu a voulu aussi l'Église pour nous aider, parce que l'Église, il y a une grâce particulière. Parce que c'est le rassemblement des croyants. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il a voulu l'Église, justement, pour que Dieu siège au milieu de nous, que Dieu se manifeste, et que quand on sort de ce lieu, il y a un désir de sainteté qui est renouvelé. Il y a quelque chose qui est renouvelé, parce que sans l'Église, on est sans arrêt dans un monde qui nous pollue. Moi, je me souviens, parce qu'avant d'être pasteur, je travaillais, comme tout le monde. Quand j'étais dans le milieu de l'éducation nationale, et des fois, avec tout ce que je vivais, je voyais, j'arrivais à la réunion de prière, des fois j'avais l'impression d'avoir été souillé sans avoir rien fait. Il y en a, ça leur fait ça. Je pouvais vous raconter, c'est des fois des choses qui me sont arrivées. Un milieu féminin, mais il y avait tellement parfois de choses qui pouvaient nous salir. Et c'est vrai, on a besoin de l'Église. C'était pas prévu dans le message, mais je le dis. Claudie nous a fait chanter « Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir ». Est-ce qu'on peut dire « Amen » ? Mais voyez, la sanctification, elle se fait par la foi d'abord. Par la foi. J'ai vu tellement de personnes essayer d'être saints et jamais réussir. Mais quand j'ai vu des personnes croire ce que Dieu dit d'eux, croire qu'ils sont morts avec Christ et commencer à vivre la vie de l'Esprit, alors la chose devenait possible parce que c'était plus eux qui faisaient l'effort pour être saints, c'était le Saint-Esprit en eux. Et c'est une clé pour toi qui lutte. Mais c'est vrai que c'est à nous d'aller vers Dieu. C'est à nous de nous approcher de lui. Amen. J'ai dit que je terminais. Le point était long. Pardonnez-moi. Je termine. J'invite le groupe de louanges à revenir et on va prier ensemble. Si ce matin, tu es peut-être dans le péché, Dieu ne te condamne pas, mais il t'appelle à lui. Il t'appelle à lui, il veut te convaincre parce qu'il veut habiter en toi. Et quand il habite en toi, alors c'est là que, dans ta vie, tu peux vivre le fruit de la sainteté. Il nous convainc de péché, mais il nous convainc aussi de justice, que Christ a donné sa vie pour pardonner, nous donner une vie nouvelle. De jugement, que nous ne sommes plus jugés, c'est le diable qui est jugé. Mais nous convainc de péché, que nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'être pardonnés. Et qu'aujourd'hui, nous ne désirons plus marcher dans ce qui déplaît à Dieu. Et c'est autant, nous ne voulons pas faire ce qui lui déplaît, mais nous voulons aussi faire ce qui lui plaît. Parce que la sainteté n'est pas juste des choses que nous ne faisons pas. La sainteté, c'est aussi des choses que nous faisons. Et j'aime bien, et je le dis souvent, j'aime bien dire, l'évangile, c'est pas juste fais ci et fais pas ça. Non, l'évangile, c'est que tu reçois quelqu'un, Dieu lui-même en toi, et ce Dieu lui-même te conduit dans ce qu'il y a de meilleur pour toi et pour les autres. Et c'est ce qu'on veut vivre ensemble. La sainteté par la foi et par l'esprit. Alors, y a-t-il quelqu'un ce matin qui dit, je veux mettre la parole de Dieu au-dessus de mes pensées. Je veux la mettre en pratique, mais ne pas le faire par moi-même. mais m'appuyer sur lui. J'ai besoin d'être rempli. Hier, on était à un rassemblement régional de jeunes. Beaucoup de jeunes étaient là. Et le prédicateur a dit ceci. Oui, on est baptisé de l'esprit une fois, mais on est rempli plusieurs fois. Et c'est vrai. Et ce matin encore, peut-être que tu as compris qu'un aspect de la croix, que Jésus est mort pour pardonner tes péchés, mais peut-être tu n'as pas compris que tu es aussi mort avec Christ le jour où tu l'as accepté. C'est ce que j'appelle le deuxième aspect de la croix, mais cet aspect, il est important. Parce que c'est cet aspect-là, cette foi dans le fait que je suis mort, qui permet ensuite à l'Esprit de me donner la force de faire. Je ne le vis pas aujourd'hui comme lui, mais je me dis, mais ça, c'est possible. Ben ouais, c'est possible, parce qu'on a un grand Dieu. Amen. Retrouver cette vie de l'Esprit, de ceux qui nous ont enseigné, de ceux qui étaient avant nous, ou la vie de l'Esprit que j'avais avant. Amen. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, après que les disciples aient été remplis de l'Esprit, 300 ans après, il y a eu un empereur qui est venu. Il s'est converti au christianisme. Alors certainement, tout le monde a dit « Ouais, super !» Constantin. Sauf qu'à partir de là, c'est là où le puits de l'Esprit a commencé à être bouché. Et quand, vous savez, l'Esprit est bouché, on rajoute des choses. Et on va dans des directions qui ne sont plus la direction de Dieu. Comme de dire aux gens « Donne de l'argent pour aller au ciel !» ou que tu as besoin de notre intermédiaire que Jésus. Et pendant des années, les puits ont été bouchés. Le puits de l'Esprit, alors quand je dis ça, bien sûr, à des moments, à des endroits, quand même, l'Esprit agissait, il a toujours agi. Mais de manière générale, le puits était bouché. Jusqu'à ce qu'il y ait déjà Luther qui est revenu à l'Écriture. Et puis plus tard, au début du siècle 1900, l'effusion de l'Esprit, le pentecôtisme. Et où on a redécouvert la vie de l'Esprit, où il y a eu une action de l'Esprit. Et un pasteur disait, même aujourd'hui, on est dans ces temps, Joël avait prophétisé, dans les derniers jours, je répandrai mon Esprit. S'il y a eu l'accomplissement au temps de la Pentecôte avec les disciples, c'est vrai. Mais il y a un autre accomplissement qui est aujourd'hui, qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train d'agir partout dans le monde. Là où il y a le moins, c'est chez nous, en Europe. Mais l'Esprit agit, on voit des gens venir. Il y a un pasteur qui dit qu'il y avait plus de conversions, plus d'actions de Dieu de la croix à 1980. Il y en a moins de la croix à 1980 que de 1980 jusqu'à nos jours. C'est ce qu'il dit, en s'appuyant sur tout ce qui se passe dans le monde. Il y a une action de Dieu aujourd'hui. Et les puits ont été bouchés, mais les puits sont en train d'être débouchés. Et quand il y a eu le Covid, on a des gens, ils venaient chez nous parce qu'ils cherchent quelque chose. Parce qu'ils voient bien qu'il manque quelque chose, que la religion n'a pas la réponse, la politique n'a pas la réponse, l'être humain n'a pas la réponse. Qui a la réponse? C'est Dieu qui a la réponse. Amen. Alors, il y avait ces anciens puits, mais la Bible nous montre aussi que Isaac a creusé aussi des nouveaux puits. Il a creusé des nouveaux puits et il y a des choses nouvelles que le Seigneur veut te donner. Si tu retrouves cette vie de l'Esprit, tu vas rentrer dans les projets que Dieu a formés sur ta vie. Il y a des choses nouvelles pour ta famille. On n'est pas obligé de prier 60 ans pour la conversion de nos membres de famille. Il peut se passer quelque chose avant. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous, pour toi. Il y a des choses personnelles, des choses nouvelles que le Seigneur a pour toi. Et c'est pour ça qu'il a aussi creusé de nouveaux puits. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. J'ai eu à cœur ce matin de ne pas faire un appel devant, mais d'avoir un temps. Que nous soyons une église qui marche dans la sainteté. Que le Seigneur nous aide, bien aimés, à marcher dans la générosité, l'hospitalité, la vérité, la bonté, la fidélité, la fiabilité. Nous voulons glorifier Dieu dans les moindres détails, même en arrivant à l'heure dans le travail, dans les choses les plus simples de la vie. Nous voulons lire la parole, mais écouter la voix de l'Esprit en nous. Mais si nous voulons écouter la voix de l'Esprit en nous, nous avons besoin de lui laisser plus de place. Amen.